C'est une joie d'être avec vous ce matin. En fait, je suis là depuis hier, à Paris depuis jeudi, mais ici, notre région depuis hier, et de continuer à connecter, à échanger, à accompagner. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir vous compter parmi notre famille spirituelle donc de RNC, et de voir les différentes connexions qui se vivent au fur et à mesure des rencontres, des événements. Je sais que les jeunes MC a été ici il y a quelque temps, ils sont revenus enchantés. Alors bien sûr, pas Alexia qui était chez elle, donc elle était enchantée aussi, mais pour d'autres raisons. Mais tous étaient tellement heureux d'être ici. Et puis, on se voit avec quelques-uns d'entre vous aussi à l'occasion des universités d'été. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Donc ces liens se renforcent, ils sont bénissants, c'est un esprit d'échange. Vous apportez ce que vous êtes dans notre famille d'église, et nous, en tant que famille d'église, on apporte aussi, on offre ce que l'on est, ce que Dieu nous a donné comme vision, identité, comme bénédiction. Et, en tout cas, je me réjouis de l'avancement de l'œuvre de Dieu dans cette région à travers vous, et c'est une bénédiction pour nous. Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises vendredi soir à Paris, justement, pour une rencontre des différents pasteurs des églises RNC de toute la région parisienne. Et il y avait, on a compté, il y a une bonne dizaine d'églises maintenant dans cette région. C'est une nouveauté. On nous dit toujours, vous êtes du sud-ouest. Oui, j'habite dans le sud-ouest, je m'en excuse, mais j'y peux rien. C'est là que Dieu m'a placé. L'œuvre est partie de là. Elle s'est développée dans tout le pays maintenant, presque. Il y a des régions où nous ne sommes pas présents. Et puis bon, on n'est pas non plus dans une logique de chiffres et de croissance comme cela. On est heureux de croître dans ce que le Seigneur nous donne de vivre, mais sans obligation de remplir le territoire. On est en connexion avec tellement d'autres réseaux qui, à leur tour, sont eux dans ces régions-là. Mais on est présent dans tout le Grand Sud maintenant, et Vallée du Rhône, l'Alsace aussi, un peu le Nord, un peu la Bretagne, et maintenant beaucoup l'Île-de-France et le Grand Paris. Alors je ne vous ferai pas la liste de toutes les églises, peur d'en oublier une, mais il y en a au moins une dizaine qui sont là, certaines depuis quelques années et d'autres tout récemment. Donc voilà, l'œuvre de Dieu à travers RNC grandit aussi dans cette région, et c'est bon de le dire, on en rend grâce à Dieu, on a chanté combien il est grand, et on est émerveillé devant la façon dont il conduit tout cela. Amen. Ben oui, donc j'ai laissé ma femme depuis quelques jours déjà, je l'ai même laissé avec nos petits-enfants hier, toute seule. Voilà, mais c'est un bénédiction d'être avec vous, c'est pas un sacrifice du tout. Et ma famille vous salue et vous bénit, l'église d'Auch et bien sûr toute l'équipe de RNC. J'avais plusieurs façons de commencer ce message. Vous savez, quand on est prédicateur, on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir démarrer la présentation, l'exposé de ce que Dieu nous a donné, nous a mis à cœur. Donc on cherche un peu les clés, ce qui va permettre de jouer le rôle d'hameçon pour attirer l'attention. Bon, voilà. En fait, on ne fait pas comme je suis en train de faire actuellement. Il ne faut pas le dire, tout ça. Ça fait partie de la technique dont on ne parle pas. Mais je voulais en parler parce que finalement, la parole qui a été donnée ce matin et l'image qui a été reçue par Julie m'offre comme un boulevard pour introduire ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Ma pensée, c'était au départ, vous savez que notre famille d'église est marquée par ce qu'on appelle la vision du royaume de Dieu. C'est une expression un peu large dans laquelle parfois on a du mal à comprendre le détail. Et souvent on me dit, mais ça change quoi la vision du royaume de Dieu? Concrètement, dans ma vie, moi, dans ma situation, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut amener de plus? Alors je suis toujours en train de réfléchir à cette question-là, et c'était un peu le sens de ce message de ce matin. Et à travers cette image de la clé en or que l'on contemple, vous savez, la clé dans le vocabulaire et dans la vision du royaume de Dieu, c'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de l'autorité que Dieu a donnée aux apôtres et à l'Église pour gouverner au sein de l'Église, mais aussi pour gouverner spirituellement, pour délivrer la connaissance, pour parfois exercer la discipline. C'est quelque chose d'important. Et c'est lié à la vision du royaume de Dieu, cette révélation. On est tous là devant cette vision que l'on porte, chacun, hein, même si le mot est peut-être, l'expression est peut-être nouvelle pour certains d'entre nous, on est tous par la nouvelle naissance, citoyen du ciel, citoyen du royaume de Dieu. Et donc, on a tous une idée, on a tous une petite compréhension de ce qu'est ce mystère. La Bible parle du mystère du royaume. Et on est tous là devant l'émerveillement. Ce matin, ce Dieu que nous adorons et devant qui nous sommes tellement émerveillés, combien il est grand, combien il est puissant, combien il est proche, combien il est plein de tendresse, de prévenance pour chacun d'entre nous, combien il conduit nos vies. Devant tout cela, nous sommes remplis d'admiration et d'adoration. Et en même temps, on a envie d'en connaître plus, d'en savoir plus. Et ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est comment cette compréhension que nous avons de Dieu, de son projet, de son plan, parce que la vision de Rome 2, c'est ça, c'est une vision globale. Si je devais la résumer en quelques mots, mais vraiment en quelques mots, pour juste mettre un fondement commun. Vous savez, l'apôtre Paul parle dans Romains 8 de cette espérance de la gloire à venir qui est dans son cœur. Il dit, il n'y a pas de commune mesure, Romains 8, verset 18, entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme, des fils de Dieu, car elle a été soumise, non de son gré, mais contre son gré la vanité, mais elle attend de pouvoir être libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je suis en train de réciter approximativement Romains 8, verset 18 et les versets qui suivent. Nous aussi, nous attendons avec espérance l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et Paul nous parle ainsi de ce qui est au cœur de notre espérance. Si je devais résumer aujourd'hui la vision du royaume de Dieu, c'est l'espérance. L'espérance pour nous, mais l'espérance pour le monde dans lequel nous sommes, pour la création dans laquelle nous nous trouvons. Notre monde est marqué par la désespérance. Nos vies sont marquées parfois par le désespoir. Devant des situations difficiles, on se dit, mais qu'est-ce qui va advenir? Quel est mon horizon? Et la vision du royaume de Dieu ouvre notre horizon, non pas au-delà de ce que nous vivons, au-delà de ce que nous voyons humainement, mais elle ouvre notre horizon à l'échelle de ce que Dieu est et de ce que Dieu prévoit. Et ce que Dieu prévoit pour notre création, c'est un renouvellement. C'est un changement, c'est une véritable révolution. Souvent, les chrétiens ont une vision pessimiste du temps dans lequel ils sont et des temps qui viennent, en voyant souvent les temps de la fin comme des temps d'inquiétude, des temps de persécution, des temps de tribulation, des temps sombres. Ces choses-là sont une réalité. Mais ce n'est pas l'horizon qui est devant nous. La vision de Rome de Dieu ouvre notre horizon vers quelque chose d'autre, vers ce moment où la création, le monde dans lequel nous sommes, sera libéré de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes, la création de Dieu, matériel et immatériel, cet univers dans lequel nous sommes, ne sera pas toujours livré à la domination de l'ennemi, mais sera un jour renouvelé, transformé. On va bientôt fêter Pâques, c'est le début du renouvellement de toute chose, et nous allons bientôt voir la venue en gloire du Christ qui va toucher notre création pour la transformer en un lieu de gloire, en un lieu où la présence de Dieu saturera chaque espace, chaque seconde, chaque moment, et où nous serons nous-mêmes transformés à l'image de Christ avec un corps dont on ne dit pas, on ne peut pas dire la force, la beauté, le potentiel qui sera adapté au royaume de Dieu, et nous vivrons pour l'éternité avec lui, les nations marcheront à sa lumière et nous vivrons dans un monde de justice, de paix, de joie et d'amour, parce que c'est ça le projet du royaume de Dieu. C'est ce vers quoi nous allons. C'est la vision qui doit habiter nos cœurs. C'est pas une fuite, c'est pas une façon d'éluder la réalité d'aujourd'hui pour dire, bon voilà, oublions. Non, c'est l'horizon qui est devant nous, qui anime nos cœurs, c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est l'univers dans lequel nous évoluons les uns les autres, c'est l'univers dans lequel nous sommes par sa présence ce matin. Le royaume est là, au milieu de nous, n'est-ce pas? Et puis il y a toujours cette dualité, cette question entre voilà ce que nous voyons du royaume, ce que nous en vivons par la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, la puissance de Dieu, son esprit, c'est la présence de son royaume, c'est la réalité de sa vie, du ciel qui est sur la terre avec nous. Vivons cela, et puis nous sommes confrontés au quotidien à ce que nous voyons, à ce que nous subissons, à ce qui parfois nous pèse, nous accable. Comment vivre les deux? Comment utiliser cette clé que nous avons pour que notre quotidien intérieur, notre univers intérieur, comme notre univers professionnel, familial, notre environnement soit éclairé, soit dynamisé, soit transformé par cette vision du royaume de Dieu. Ça change quoi d'être citoyen du royaume? Ça change quoi d'être un croyant? Vous savez, l'apôtre Pierre dit, nous devons rendre compte, quand on nous le demande, de notre foi. On doit savoir ce que l'on croit, et on doit savoir ce que l'on croit change dans notre vie. Ce dont le monde a besoin, c'est pas d'un témoignage formel, théorique de la façon de se convertir, de se repentir, d'accepter Jésus, etc. Ça, c'est bien. C'est la technique d'évangélisation qu'on connaît bien, qu'on pratique. Mais ce dont le monde a besoin, c'est de voir ce que dans nos vies au quotidien, et souvent dans les temps d'épreuves et de creux, qu'est-ce que notre relation avec Dieu, qu'est-ce que notre révélation de Dieu change concrètement ? En quoi, qu'est-ce qui attire le monde qui nous entoure ? Les gens sont concernés par ce qu'il leur apporte, par ce qui les touche, par ce qui va changer leur vie. Et c'est comme ça que la publicité fait son beurre et tout le reste. Je ne dis pas qu'il faut évangéliser avec cette façon-là, mais ça veut dire que les gens sont curieux de savoir ce que notre foi peut changer dans nos vies et peut changer dans leur vie. Et quand ils voient une différence, alors là, les cœurs s'ouvrent et le chemin est ouvert par l'Esprit de Dieu pour le témoignage et pour la révélation du royaume de Dieu. Ceci dit, on va en venir à la parole de Dieu, on y est déjà, mais plus particulièrement, plus approfondi, à travers une situation que Paul a vécue, situation dramatique, parce que c'est souvent dans les drames, dans les difficultés, que notre foi fait la différence. C'est sous la pression que ce que nous sommes, ce que se révèle ce que nous sommes et ce que nous croyons. Et il y a un chapitre dans la Bible, moi, qui me plaît beaucoup. C'est le chapitre d'un naufrage de Paul. Alors tout le monde, tous les lecteurs de la Bible savent déjà la référence, ils ont déjà tout le récit en tête, c'est Actes 27. Je suis toujours surpris, alors moi je ne suis pas marin. Je ne sais pas si ici, au bord de la Seine, vous avez des marins. Mais je suis sûr que si vous êtes marin, vous avez été intéressé par cette lecture de ce naufrage et de tout ce qui précède, surtout. Parce que le naufrage en soi, c'est... Mais en tout cas, ce qui précède de la technique d'affronter les vents, la tempête, etc. Alors moi, je ne comprends pas tout, donc je ne vais pas vous lire le chapitre dans son entier, mais juste quelques extraits. Mais ce qui m'a étonné dans ce passage, c'est que... Vous savez, quand Paul raconte ses péripéties en tant qu'apôtre, vous découvrez qu'il a fait 3 fois naufrage, entre autres. Entre autres fois où il a été lapidé, où il a été jeté aux animaux, etc. Enfin, tout ce qu'il a vécu. S'il y a des candidats pour l'apostolat ce matin, je vous invite à lire ces passages où Paul montre ce que ça comporte que d'être cette dimension du ministère. Donc, il a fait 3 fois naufrage. Et il n'y a qu'un seul naufrage qui nous est raconté, avec moult détails. Je dis, mais franchement, pourquoi ? Mais parce que dans ce passage-là, il y a plein de clés qui nous sont données pour voir comment, au sein des naufrages personnels, familiaux parfois, des naufrages parfois du monde dans lequel nous sommes, beaucoup de gens pensent que le monde va vers le naufrage, notre société, notre économie. Ce n'est pas si faux. Mais comment cet homme, au cœur d'un naufrage qu'il a vécu avec tous les autres, a fait une différence significative. Comment il l'a vécu, lui, d'une autre façon que ce qu'il aurait pu vivre. Et comment il a amené tout ce qui l'entourait au salut, à la délivrance. Comment il a été un instrument de Dieu pour amener l'espérance et le salut à ceux qui vivaient avec lui le même naufrage. Alors je vais lire quelques extraits de ce chapitre 27 et ensuite on va essayer de découvrir les clés que Paul a utilisées et qui peuvent nous servir à nous aussi. Même si on n'est pas dans une situation de naufrage, je ne le souhaite à personne. Mais néanmoins, on sait bien que les naufrages, ça arrive de manière imagée, bien sûr, sans qu'on les cherche, sans qu'on les souhaite. Alors, ce matin, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Je lis Acte 27, verset 9, du verset 9 à 13, dans un premier temps. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, mais non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau. Ça, c'est la réaction du professionnel, n'est-ce pas ? Qu'aux paroles de Paul, prisonnier, je le rappelle. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète, orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et, se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé l'île de Crète. J'aime bien cette expression, soulignée avec moi. Se croyant maître de leur projet. ça fait penser à beaucoup de choses, hein, et parfois à nos vies. On se croit maître, nous aussi, de beaucoup de choses. Mais j'aime bien cette précision de l'Écriture, se croyant maître. Verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage. » Voilà le langage du royaume. « Car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. » Voilà le langage du royaume. On peut le dire ensemble, « N'aie pas peur. » On pense que c'est le pape, je ne sais plus lequel d'ailleurs, le précédent, Jean-Paul II, qui a inventé cette parole. Tout le monde la cite comme étant, hein, il n'a fait que citer la parole de Jésus lui-même. Et ici, la parole de Dieu à Paul, « N'aie pas peur. » Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Magnifique. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Verset 33. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir dit cela, il a pris du pain, remercié Dieu devant tous, il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et eux aussi ont mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassasiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer et puis ils vont continuer à l'alléger jusqu'au moment du naufrage. Mais la fin nous dit, verset 44, c'est ainsi que tous sont parvenus, sains et saufs, à terre. Amen. Alors le récit est en soi fini apparemment mal, et pourtant, il y a là l'intervention de Dieu qui, à travers Paul, amène le salut et la sécurité. Quelles sont les clés que l'on peut découvrir dans le comportement de Paul ? Qu'est-ce qui a fait qu'il a fait justement une telle différence dans ce contexte aussi sombre ? D'abord, on sent bien que Paul est conscient de sa position en Christ, bien sûr, mais aussi de l'autorité dont il est revêtu en tant qu'apôtre. Et pourtant, Paul, évidemment, était conscient de son apostolat quand il était au sein des églises, quand il implantait les églises, quand il était reconnu par tous. Or là, il est dans un milieu hostile. Il est prisonnier avec d'autres. Donc il est dans la condition sociale, humaine, la plus basse et la plus méprisée sur ce bateau. Au point qu'à un moment donné, certains soldats vont essayer de le supprimer parce qu'ils ont peur que les prisonniers fuient. Mais cet homme est là dans une situation la plus défavorisée. Personne ne fait attention à lui. Il n'a aucune audience, à part auprès du capitaine, et on verra peut-être pourquoi plus tard. Il n'a aucune notoriété, il n'a aucune reconnaissance. Il est méprisé de mépriser. Et pourtant, dans tout son comportement, on sent une force. On sent une conscience de son appel, de sa position, qui va l'amener à faire une différence. Il bénéficiait d'aucune protection, ni sociale, ni humaine. Les soldats avaient sur lui droit de vie et de mort. Et pourtant, il devient le personnage clé de cette histoire. Déjà, on peut s'arrêter là. Je ne sais pas dans quel univers vous vivez. Il n'y a pas de prisonnier ici, et je m'en réjouis, mais on peut être prisonnier de bien des choses. Prisonnier de son image. Prisonnier du regard des autres. Prisonnier de sa condition sociale, prisonnier de tellement de choses qui nous tiennent enfermés, et qui font qu'on est, nous aussi, au fond du bateau, de la famille, de la vie professionnelle dans laquelle nous exerçons notre activité, de la société. Eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'être restauré. C'est pas votre condition, c'est pas le regard des autres, c'est pas notre situation professionnelle, spirituelle, celle qui fait notre identité, c'est ce que nous sommes en Christ. Et tout l'art de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à vivre sa foi dans les lieux, les situations les plus défavorisées, les plus douloureuses, les plus sombres, avec la dignité d'un fils et d'une fille de roi. Et Paul, ce n'est pas une exception, là. Ce n'est pas un moment exceptionnel pour lui. C'est ce qu'on voit dans toute sa vie. Vous vous souvenez quand il se trouve avec Silas, en prison cette fois. Moi, j'aime bien souligner tous les côtés difficiles, douloureux, du parcours de Paul et d'autres dans l'Écriture. Parce qu'on est dans une culture un peu aujourd'hui où on fait tellement le culte du succès, tellement le culte de la victoire, tellement le culte de... Et je crois qu'on a la victoire, j'ai pas de doute. Mais tellement le culte de tout doit être super. Quand vous lisez les réseaux sociaux, vous suivez ça, la vie de chacun est vraiment extraordinaire. Vous dites, ah ben, quelle chance ils ont. C'est pas, moi, j'en suis pas là. J'ai pas... Parce que tout est fait pour sublimer, pour... Voilà. Et j'aime l'Écriture qui nous amène au réalisme. Le réalisme de la foi. Et c'est pour ça que je souligne les moments, ces moments-là de Paul. Paul en prison, avec Silas. En prison pour avoir annoncé l'Évangile. Hein ? Pas parce qu'il avait commis un larcin, parce qu'il a annoncé l'Évangile, parce qu'il a obéi à Dieu. Comme Joseph. Joseph a passé du temps, lui aussi, au creux de la vague, même s'il n'a jamais fait naufrage, mais on l'a retrouvé en prison, on l'a retrouvé dans une situation de déplorable. Souvent parce qu'il avait obéi à Dieu. Ah, vous allez me dire, alors donc du coup, c'est comme la dîme, ça, je se demande si ça vaut la peine d'obéir. Non, non, bien sûr que oui. Mais ça veut dire qu'il y a une réalité, des situations qu'on ne peut pas échapper, dans lesquelles Dieu veut manifester sa gloire. Et cet homme-là va ne rien lâcher, comme on dit aujourd'hui, de sa foi, de sa position. Malgré tout le contexte qui dément la réalité de ce qu'il est en Dieu. Je repense à Joseph, j'en ai parlé il y a un instant. Cet homme, tout au long de son parcours, qui part avec une parole de Dieu extraordinaire, une vision, et qui passe au moins 13 années de sa vie par toutes sortes de circonstances qui vont démentir la vision de Dieu, qui vont la démentir et qui vont s'y opposer et qui vont chercher à la faire échouer. À chaque fois, cet homme se retrouve avec un regard favorable de ceux qui l'entourent. Le chef de la prison, à un moment donné, la maison, le chef de la maison dont il était intendant. Chaque fois, il trouve la faveur, comme Paul, auprès du capitaine de ce bateau. Pas par piston, pas par position, même pas par professionnalisme, puisque on préférait écouter les marins comme pauvres prisonniers, mais parce qu'il y avait une faveur de Dieu sur sa vie, parce qu'il était en relation avec Dieu. Et c'est ça qui change le regard. C'est pas lui qui a cherché à changer le regard sur lui-même, c'est son regard sur lui-même, sa conviction de qui il était en Christ, qui a fait que le regard des autres a changé. Et cette situation a ouvert la porte à tout ce qui va suivre. C'est mon premier point, votre condition aujourd'hui. Votre regard sur vous-même, le regard des autres n'influence pas, ne met pas en cause l'influence que vous pouvez avoir sur les autres. N'attendez pas d'être dans une position plus favorable, sociale ou même spirituelle, ou je ne sais quoi. N'attendez pas d'être dans que les conditions alentour soient plus favorables. Soyez dans la foi que ce que vous êtes en Christ vous amène déjà dans une position de règne et d'autorité. Et ce que j'aime dans la façon dont Dieu travaille avec nous, c'est de nous repositionner en permanence. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que on n'est pas dans la victimisation, on n'est pas dans le fait de subir, dans la passivité, dans la résignation. On n'est pas non plus dans la fuite, en cherchant à sublimer, en disant non, tout va bien. Non. Mais on est dans la conscience de qui on est. Et c'est ça qui ouvre une possibilité de régner. Régner dans la vie avec Christ. Deuxième chose qui me touche chez Paul, c'est sa capacité. Alors là, je suis scotché. Sa capacité à rester centré sur l'essentiel, c'est-à-dire sa relation avec Dieu. On a remarqué, chaque fois que ça bouge un peu, que le bateau de notre vie, ça tangue, ça roule, ça... on est secoué. Eh ben, c'est le plus difficile, c'est de rester en paix. Et c'est de rester dans une relation intime, étroite avec Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand ça va bien, c'est assez facile. Mais c'est ce même vers, dans ce même passage que Paul dit, et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est le même principe. Comment rester connecté, centré sur Dieu dans les moments où tout en nous bascule et tout autour de nous bascule. C'est ce que Paul nous apprend ici. Vous l'avez lu avec moi, au verset 23, « Le Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu. » Et j'aime cette façon de Dieu de pouvoir surgir, venir dans les moments les plus turbulents de notre vie, dans la mesure où nous lui ouvrons la porte. Il n'y a pas de situation désespérée pour que Dieu se révèle. Pour nos vies, pour nos familles, pour le pays dans lequel nous sommes, quelle que soit la tempête, quels que soient les flots, Dieu est toujours capable de se révéler, toujours capable de venir, de parler, d'ouvrir l'horizon. Et ce matin, c'est ce qu'il fait dans sa présence, alors que nous connectons avec lui. Et la tempête peut se calmer ainsi, en tout cas la tempête intérieure. C'est ça qui va faire son... la différence pour lui. Certainement, ce qui aide dans ce moment-là, c'est l'attitude intérieure. On se dit, mais comment moi je peux y voir clair? Comment je peux rester connecté avec Dieu alors que c'est la tempête? La communion avec Dieu, ce n'est pas facile. Hein, comment est-ce qu'on l'entretient? Comment est-ce qu'on la vit? On peut en parler, on peut en bénéficier, on peut en jouir, mais comment est-ce qu'on la pratique concrètement? C'est ça qu'on a besoin toujours et toujours de revoir. Des fois, pour que la connexion avec Dieu se clarifie ou se rétablissent. Il faut qu'il y ait des choses qui disparaissent dans nos têtes, des pensées, des arrière-pensées, des préjugés, des réflexions, des attitudes. J'avais un panneau là, j'avais un post que j'ai trouvé sur Internet qui dit « La vie, c'est 10% de ce qui arrive, de ce que nous vivons, et 90% de nos attitudes. » C'est notre attitude, et là je parle dans le contexte de la relation avec Dieu, nos pensées, celles qui à la fois encombrent notre relation avec Dieu, comme celles qui vont la favoriser, sont nos pensées qui vont être la clé. Tout se passe dans l'attitude. Quand on est dans la difficulté, quand on est dans la tempête, tout ce qu'on voit c'est la tempête. Quand on est dans l'inquiétude, quand Jésus parle à ce propos de la dépendance du Père, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Cette parole-là, ce n'est pas juste un pansement comme ça, hein, un cachet d'aspirine qu'on prend quand... Non, c'est un style de vie. C'est une position intellectuelle, spirituelle, de tout notre être. C'est un combat donc à mener. Parce que justement, quand le besoin, la difficulté, là, dans ce passage-là, la crainte de l'avenir surgit, ça occupe tout notre univers. C'est ça le propos de l'ennemi. C'est de nous aveugler et d'accaparer notre attention sur ce qui est difficile, sur le défi, sur l'obstacle, sur le besoin, sur le manque, sur tellement de choses. Et tout d'un coup, ça obstrue tout notre horizon. Et puis, alors là, du coup, ben, c'est sombre. Hein, pour voir... Dieu, pour voir la lumière, pour voir le soleil briller au-dessus des nuages, c'est compliqué. Alors que le Christ nous invite à ne pas laisser ces inquiétudes obstruer notre horizon, mais à les surmonter par la conviction et la foi que notre Père sait de quoi nous avons besoin. C'est tout l'enseignement de Matthieu 6. Votre Père sait. Donc à partir de là, c'est ce repositionnement dans la confiance en Dieu qui fait que ce qui était une montagne devient juste un petit obstacle, une petite pierre sur notre chemin. Et c'est ce qu'on voit chez Paul ici, sa capacité à vivre au sein d'une tempête. Et là, les ténèbres, elles auraient pu être intérieures comme extérieures. Parce qu'un jour de tempête, c'est justement sombre, la pluie est là, le vent est là. Et dans ce moment-là, au lieu de laisser son regard être accaparé, être absorbé par ce qu'il voit, par ce que tout le monde voit, il se positionne autrement. Il reste centré sur l'essentiel. Comment est-ce qu'on peut vivre ça ? Parce que, justement, des fois, on pense que quand l'épreuve est là, Dieu n'est plus là. C'est parce que Dieu n'est plus là. Combien de fois on a l'impression que quand une difficulté survient, c'est qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Le réflexe des croyants, le vôtre comme le mien, je pense, c'est chaque fois qu'un truc va pas trop bien, on se dit « mais est-ce que je suis dans le plan de Dieu ?» C'est une bonne question. Hein. Au départ, c'est une bonne question. Parce que ça montre la préoccupation d'être au cœur de ce que Dieu veut. Mais ça veut dire aussi que derrière, on a l'idée que si on est dans le plan de Dieu, tout doit aller bien. Et on doit être sur une mer d'huile. On a un peu ce rêve et cet idéal dans notre vie, n'est-ce pas ? Être dans la volonté de Dieu, être dans le royaume de Dieu, c'est du coup, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Amen, amen, amen. Mais nous, notre idéal de bénédiction, c'est l'absence de vagues, l'absence de tempêtes. Tout doit se dérouler et on a cette idée-là. Alors, c'est pas compliqué. Chaque fois qu'on passe par un moment difficile, la question qui surgit, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Avec tout ce que je fais pour toi. Et justement, quand on donne la dîme, eh bien, on devrait tous arriver de manière confortable à la fin du mois. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Ça change rien au principe de la dîme. Mais c'est pas parce qu'on donne sa dîme et qu'on obéit, c'est pas parce que tout doit aller bien. Il y a d'autres critères, d'autres facteurs. Et c'est pas parce qu'on est en difficulté que Dieu n'est pas avec nous. On a des idoles comme ça dans la tête à l'égard de Dieu et de la vie chrétienne qui sont un obstacle à la relation avec Dieu. On est vite troublé. On est vite décontenancé. Si on revient à Paul, c'est exactement le contraire qu'il nous montre. Vous savez, quand ils partent d'Antioche avec Barnabas, Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. L'Église prie. Elle les recommande au Seigneur. Ils ont tout bien. Vous pouvez cocher toutes les cases positives. Ils sont sous la couverture spirituelle de l'Église. Ils sont dans la mission de Dieu. Ils sont dans l'obéissance du Saint-Esprit. Tout va bien. Première étape, j'ai oublié la ville. Le nom de la ville, peu importe. Première étape, la prédication de l'évangile se termine par une lapidation. C'est quand même pas logique, ça. Si Dieu est avec nous, qui peut bien être contre nous ? Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout va aller comme on l'entend et que toutes les difficultés vont nous être épargnées. Je crains parfois, pour l'avoir vécu, hein, et puis pour l'avoir vu en tant que pasteur aussi autour de moi, que notre prière, parfois même prière pour le miracle, en cas de maladie, entre humains, hein, entre humains, on parle cœur à cœur, soit parfois motivée, pas nécessairement par la gloire de Dieu, mais par le refus de la souffrance et par la volonté d'échapper à la difficulté. Et on va s'abîmer dans la prière, dans la confession de foi, dans l'autorité. Et il faut pratiquer ça. Mais si nos motivations, c'est de fuir la souffrance et d'éviter le trouble, d'éviter la tempête et de trouver de l'oxygène, ben, c'est peut-être pas nécessairement ce qui va déclencher le miracle de Dieu. Dans toutes ces choses, dit l'Écriture, dit l'apôtre Paul, dans toutes ces choses, il vient d'énumérer les difficultés, le dénuement, le péril, l'épée, la persécution. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et ici, Paul vit une situation qui est une situation de naufrage dans laquelle il est vainqueur, même si les apparences sont trompeuses, même si apparemment, tout pourrait amener au découragement. Être dépité. Pour autant, il reste dans une position de vainqueur. Parce que c'est comme si, il me semble que dans l'Église primitive, il y avait cette maturité de considérer la vie chrétienne non pas comme un long fleuve tranquille, mais comme étant fait de, aussi d'épreuves. Je ne fais pas le culte de l'épreuve du tout, et encore moins le culte de la souffrance. Mais je voudrais rappeler que notre idéal de vie chrétienne, notre compréhension du royaume de Dieu, ne peut pas faire l'économie des temps de tempête, des temps de souffrance. Pas pour s'en accommoder, pas pour se résigner, mais pour en triompher, pour les traverser de manière triomphante. Mais dans la vraie victoire, pas une victoire surfaite, artificielle, une victoire qui vient vraiment de l'œuvre du Seigneur. Regardez, ce matin on a lu le texte de Acte 4. Les apôtres, parce qu'ils annoncent l'évangile, ont été mis en prison. On les libère et on les menace. Ça suffit maintenant, plus de prédication de l'évangile. Ne parlez plus de ce Jésus de Nazareth. L'Église se retrouve. Et dans sa prière, l'Église est dit, vois leurs menaces. Très bien. Elle présente la situation à Dieu. Mais vous ne voyez pas d'apitoiement, vous ne voyez pas d'inquiétude. Mais vous voyez plutôt le sursaut de la foi. Vois leurs menaces. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance pour qu'ils se fassent au nom de ton saint serviteur Jésus des signes, des prodiges et des miracles. C'est pas, Seigneur, épargne-nous la souffrance. Épargne-nous la persécution. On a le droit de prier comme cela. Mais on n'a pas le droit de s'enfermer dans cet idéal que Dieu devrait nous épargner de tout ce qui va être négatif. Paul, Jacques et l'apôtre du Seigneur est arrêté dans les livres des Actes. Et il est décapité. L'apôtre. Premier, c'est pas le premier martyr, mais en tout cas le premier apôtre à vivre le martyr. Quelque temps après, Pierre, lui, est emprisonné. Et on lit que toute l'Église prie pour lui. À un moment donné, Dieu intervient. Il ouvre les portes de la prison. Pierre est libéré. Il va voir le lieu où les croyants étaient rassemblés pour prier. Et là, la servante lui ouvre la porte. C'est Pierre. Ah, elle ne le croit pas. Elle va retourner voir les croyants. C'est Pierre est là. Mais tu es folle. Et nous, comment est-ce qu'on lit ça? Comment est-ce que moi j'ai enseigné ce texte? J'ai peut-être dû l'avoir dit déjà, mais peu importe, je le redis. On se dit, mais quelle incrédulité cette servante! Comme nous, on prie et quand Dieu répond, on n'y croit pas. Alors ça c'est vrai, ça c'est vrai. Dieu fait toujours au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais qui vous dit qu'il priait pour la libération de Pierre? Où est-ce qu'on l'a lu ça? Rien ne dit dans ce texte que l'objet de la prière était la libération de Pierre. Rien. Seulement, nous, on plaque nos aspirations, notre vision, notre compréhension du projet de Dieu. On dit, bah oui, il ne pouvait que prier pour que Pierre soit libéré de la prison. Peut-être, mais pas sûr. Jacques, lui, quelque temps avant, avait été décapité. Jacques a eu moins de chance que Pierre. Il était moins aimé du Seigneur. Il était moins dans l'onction que Pierre. Pour que lui soit décapité, que Pierre lui soit libéré, Dieu fait des chouchous. Jacques avait moins de foi que Pierre. Toutes ces questions, d'abord sont sans réponse et n'ont même pas lieu d'exister. L'Église pouvait très bien prier pour que Pierre supporte la persécution et tienne bon dans sa foi. C'était ça l'objet de la prière, peut-être, de ces croyants. Mais nous, on se dit, voilà. Donc, vous comprenez ces idées que l'on a. Parce que Dieu est avec moi, tout va aller bien, nous amène parfois dans des impasses. Et nous amène dans des questionnements et parfois même des révoltes contre Dieu, des révoltes, inexprimées. Il y a les soupirs inexprimables dans la Bible, ça c'est bien, c'est ceux du Saint-Esprit, puis il y a les révoltes inexprimées, hein, les révoltes sourdes là, quand même. Pourquoi? Comment? Chose qu'on n'ose pas dire. À part avoir vécu des temps difficiles, et merci pour votre soutien pendant ce temps-là, dans le temps qui m'a été donné pour faire surface, un temps sabbatique, j'ai été amené à finalement avouer ce qui m'a coûté très cher dans mon orgueil et avouer que j'en voulais à Dieu. De ne pas avoir répondu à nos prières, pour la guérison, pour voilà. Et jamais je n'aurais imaginé ça. Parce que j'avais toujours dit, j'avais toujours enseigné, j'avais toujours conseillé. Non, voilà. On est dans la main de Dieu, quoi qu'il arrive, on accepte aussi sa volonté, et puis on pose pas de questions qui pourraient être l'expression de révolte, de rébellion. Très bien, on peut avoir le discours, mais à un moment donné, on est tous confrontés à ces moments où finalement il y a une racine de révolte contre Dieu. Et ça n'est qu'à partir du moment où j'ai pleuré devant Dieu pour ma rébellion finalement, même sourde, hein, même inexprimée, mais bien réelle, que le repos et le renouvellement et la guérison ont pu arriver. Il y a tellement de questions et de réactions, même à l'égard de Dieu, qui sont là dans nos cœurs, qui forment quelque chose que l'on n'exprime pas, que l'on ne montre pas, mais qui sont un obstacle entre la relation avec Dieu. Parce qu'au départ, on pense que finalement, Dieu doit répondre à nos prières. Et surtout, il doit répondre comme on l'entend. Et comme on s'y attend. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas nos difficultés qui déterminent notre avenir et qui sont un obstacle pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Paul est resté centré sur l'essentiel et ma dernière clé, c'est que finalement, il est resté conscient de sa destinée. Ça n'est pas l'impossibilité visible dans laquelle il se trouvait qu'elle est le priver d'accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi il est sur ce bateau? Vous savez qu'il aurait pu être libéré. Vous avez remarqué, si vous avez lu son histoire, il aurait pu être libéré. Il n'y avait aucune charge qui était retenue contre lui. Il était passé par plusieurs juridictions, et finalement, on voit bien que ça ne tenait pas. Les accusations contre lui ne tenaient pas. Il aurait pu être libéré, mais il avait une conviction, c'est qu'il devait comparaître devant César. Alors, je fais une petite parenthèse. Moi, j'aime bien ce passage-là parce que on rêve tous en tant que croyants que l'Église soit une voix dans la société, puisse avoir être reçue auprès des autorités. Et oui, mais on l'imagine pas de cette façon-là. Hein. Il a comparu devant César, mais dans les chaînes. Et pour autant, il a accompli sa mission. Mais nous, c'est pas l'image qu'on a parfois de l'influence qu'on peut avoir dans la société. Alors, je ne dis pas qu'elle doit être toujours dans la difficulté de cette influence, mais elle peut être aussi dans ce genre de situation. Et il savait qu'il devait aller. Et c'est lui qui a choisi de rester en captivité parce qu'il devait comparaître devant César. Il était conscient de son appel. Alors nous, on pourrait l'élargir, conscient de notre destinée en tant que... Alors destinée, ce n'est pas d'être en prison ou de comparaître dans les chaînes, mais c'est ce vers quoi nous allons. L'horizon que Dieu nous montre. Ce royaume éternel vers lequel nous allons, qui est notre espérance, une terre de justice et de paix dans la présence de Dieu. Et c'est cette vision de sa destinée qui a été le moteur de sa vie, qui lui a permis de traverser ses difficultés sans plainte. Vous ne le voyez pas se plaindre, vous ne le voyez pas s'inquiéter, ni même se demander s'il est dans le plan de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser la question, hein. On a le droit, on a le devoir même de laisser Dieu sonder nos vies. Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est essentiel. Mais on ne doit pas rester dans la pensée que parce qu'il y a une difficulté, alors Dieu n'est pas avec nous. On doit plutôt découvrir ce que Dieu veut faire dans nos vies, au sein de la difficulté. Qu'est-ce que Dieu veut travailler? Qu'est-ce que Dieu veut toucher? Qu'est-ce que Dieu veut transformer? Qu'est-ce que Dieu veut guérir à travers ces difficultés? Et à partir de là, alors les circonstances difficiles ne sont pas un obstacle à l'accomplissement de notre appel, de notre vision, ni en tant qu'Église, ni en tant que nation, ni en tant que croyant, parce qu'au contraire, ces difficultés-là seront le tremplin pour que le projet de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplissent pleinement. Changement de regard sur nous, changement de regard sur notre environnement et restauration dans une position de règne, de foi, parce que Dieu transforme le mal en bien. Je reviens à Joseph. Cet homme qui dit à ceux qui l'ont trahi, ses plus proches, il leur dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est un chemin de guérison et de transformation qu'on n'imagine pas. Hein. Et À la fin, il dit, le mal que vous aviez décidé de me faire, Dieu l'a transformé en bien. Voilà une image aussi de la façon dont on peut régner sur les circonstances. Et dans l'image de ce que la foi, la conviction de notre position et de notre destinée peut changer dans les moments de naufrage, de troubles ou de difficultés. Le mal qui est là, que nous traversons, que nous subissons en partie parfois, n'est pas irréversible, il n'est pas irrémédiable, il peut être l'occasion pour Dieu et de manifester sa gloire et d'apporter le bien, l'accomplissement de sa parole, la réponse à notre attente et à notre prière. C'est une clé pour nous. Alors je ne sais pas quelle est notre... Juste peut-être une réflexion. Un dernier point sur Paul. Ce que j'aime dans son attitude là, c'est qu'il n'a pas cherché le salut pour lui-même. Dieu ne lui a pas révélé qu'il serait épargné, lui. Dieu lui a révélé qu'il serait épargné avec tous ceux que Dieu lui avait donnés. Et là, en l'occurrence, c'était tous les passagers de ce bateau. Et c'est peut-être un point qu'il faut juste souligner en terminant, c'est que la vision du royaume de Dieu ne nous amène pas à une relation à ceux qui nous entourent de distance, de protection, d'éloignement, et encore moins de jugement. Elle nous amène à une position de service et de solidarité. Dieu dit à Judas, dans Jérémie 29, « Recherchez le bien, la paix de la ville dans laquelle je vous ai déporté, intercédez pour elle, car votre paix dépendra de la sienne. » Ça, c'est quand même impressionnant. Notre paix est en Dieu, notre sécurité est en Dieu, et ça, c'est vrai aussi. Mais dans ce contexte précis, Dieu dit à ce peuple, qui ne pouvait que regarder Babylone avec horreur, il dit, votre paix à vous dépendra de la paix de Babylone. Bon, on n'a pas fini quand même de méditer là-dessus, hein. Jusqu'où ça va, comment... Mais ça veut dire qu'on est dans une relation de solidarité avec... On ne cherche pas le salut de nos vies ou le salut de l'Église. On cherche le salut de notre génération, de tous ceux qui nous entourent. La vision du royaume de Dieu nous amène à avoir un regard global, à être proche de ceux qui sont autour de nous et qui nous sont donnés un héritage quelque part. Nous croyons que notre nation nous est donnée un héritage parce qu'elle est d'abord l'héritage du Christ et elle nous est donnée aussi. Et on ne peut pas entretenir de distance, d'éloignement. Parfois, il y a des drames, des circonstances climatiques ou autres qui interviennent dans tel ou tel pays. Et la première réaction que l'on a, c'est de dire, est-ce que les croyants ont été préservés ? Allez. Hein ? C'est une bonne question. Hein ? On a tous envie que nos frères et sœurs dans la foi soient préservés. Mais il ne faut pas que ça dénote un peu une façon de faire une coupure entre les croyants et puis le monde. La compassion ne doit pas aller que vers nos frères et sœurs en Christ, ça doit aller vers le monde qui nous entoure. Donc la prière, c'est pour la nation, le pays, le peuple, la ville qui a été dévastée. C'est ce qu'on trouve ici chez Paul. Il dit, le Dieu auquel j'appartiens m'est apparu. Aucun de vous ne perdra la vie. Oh, alléluia. La vie en Rome de Dieu, ce n'est pas pour nous. Hein, ce n'est pas juste pour traverser les épreuves qu'on a vu tout à l'heure de manière triomphante. C'est pour entraîner ceux qui nous entourent. Dans la même victoire, dans la même découverte de qui est Dieu. On ne sait pas ce que sont devenus ces marins ou ces soldats, mais c'est leur affaire. En tout cas, Dieu s'est révélé à eux à travers l'attitude de Paul, grâce à cette solidarité qu'il a vécue naturellement. Le Dieu auquel j'appartiens m'est apparu et il m'a assuré qu'aucun de vous ne perdra la vie. C'est la compassion, c'est la volonté d'entraîner et d'être, malgré notre condition parfois défavorisée, un instrument de salut, être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Ce matin, je vais terminer en priant, en posant une question très privée et qui, j'espère, ne s'adresse pas à tout le monde. Mais quel est ton naufrage ? Quelle est la situation dans laquelle tu vis éventuellement les mêmes... difficulté. Ce naufrage-là, on va le porter devant Dieu, si c'est le cas. Il y a ceux qui se voient, les naufrages qui se voient, dont tout le monde est témoin, et il y a ceux qui ne se voient pas. Ceux que l'on vit chacun dans son coin, et pour lesquelles on permettra à personne de s'ingérer ou de voir ou d'être témoin. Alors on est devant Dieu là. Alors, le naufrage, c'est peut-être un mot fort, hein. Ça peut être juste une petite tempête. Mais peu importe. Quelle est la tempête ? Quel est le naufrage auquel nous sommes confrontés ? Et quelle est l'attitude, du coup, que l'on cultive au sein de cette situation ? Quelle est l'attitude que l'on voudrait que Dieu dénonce dans sa parole et dans ce qu'on a partagé ce matin, dont il faut nous débarrasser, à laquelle il faut renoncer ? Attitude de culpabilité, de culpabilisation, attitude d'apitoiement, attitude d'inquiétude, et puis tant d'autres. Et quelle est la nouvelle attitude que Dieu veut que nous adoptions, que j'adopte ? Ce matin, pendant qu'on priait pour les clés, là, Dieu m'a parlé d'une situation très concrète. Juste pour donner un exemple, situation de conflit avec une entreprise. Sur un plan personnel, conflit dans le sens d'une mauvaise... Le produit qui a été livré ne correspond pas aux promesses. Petite histoire, mais un produit important pour lequel l'entreprise fait la sourde oreille et dans lequel j'ai l'impression d'être ou victime ou sans force, sans possibilité d'agir. Et dans ce temps de prière, j'ai compris que Dieu me donnait une clé. C'est pas la première fois, mais quand Dieu parle, c'est aussi pour renforcer des choses qu'il a déjà dites et pour nous amener encore plus dans ce qu'il veut nous faire vivre. Et cette clé, c'est une position d'autorité, de déclaration que la justice de Dieu, la justice simplement, soit rendue. Et de ne plus baisser les chines, courber le dos, mais de se relever dans la foi que Dieu va agir. Et peut-être que pour quelqu'un, c'est la même situation. Dieu rappelle ce qu'il a déjà dit. Dieu renouvelle une position de foi dans laquelle il vous a déjà établi. Vous avez besoin de retrouver cette position de foi pour être au-dessus et non pas être en bas. Alors Seigneur, nous sommes devant toi. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, pour l'appel que tu as adressé à chacun ici d'être un instrument de salut pour son entourage, sa famille. L'appel que tu nous as adressé ensemble pour être un instrument de salut pour notre nation. Merci parce que quel soit le naufrage auquel nous sommes confrontés, tu es là avec nous. Tu n'es pas absent. Tu continues de parler, de te révéler. Je prie, Seigneur, que tout ce qui obstrue la relation avec toi, le contact avec toi, soit écarté et que tu puisses venir parler, tu puisses venir percer les nuages et apporter la lumière de ta présence, la vie, la foi, l'assurance, la sécurité de ta présence, au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Merci de travailler nos cœurs, de nous montrer ce qui encombre nos pensées, nos préjugés, nos a priori, nos idoles, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous tient en deçà de la communion avec toi. Seigneur. Merci de bousculer tout cela, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'oppose à ce que l'ennemi voudrait mettre et interposer entre toi et nous, Seigneur. Et si quelqu'un a besoin d'un encouragement, a besoin d'un moment d'être porté, d'être accompagné dans ce temps-là, ou pour surnager, pour surmonter le poids qui est sur sa vie, afin de tendre la main, ou plutôt saisir la main que Dieu lui tend. Si c'est votre besoin, vous pouvez vous lever là où vous êtes. On est dans la foi, on est dans la communion, on porte les fardeaux les uns des autres. On est dans la foi qu'il n'y a aucune situation désespérée, il n'y a aucune situation dans laquelle il n'y a plus de recours, il n'y a plus de solution. Dieu est le Dieu du naufrage, non pas qu'il l'a provoqué, mais il est le Dieu qui, au sein du naufrage, apporte la vie, apporte la parole de foi, apporte la parole d'autorité qui nous fait atteindre l'autre rive en sécurité, sain et sauf, au nom de Jésus. Amen. Alors restons là dans sa présence encore. Et si vous avez besoin de faire un acte physique qui vous permet de saisir la main que Dieu vous tend, ben vous pouvez vous lever là où vous êtes. Personne ne se préoccupe de qui que ce soit. Vous pouvez être là dans sa présence, dire « Seigneur, oui, je crois ». C'est aujourd'hui le jour de la victoire. Le naufrage peut apparemment continuer. La situation peut perdurer, peut-être. Mais moi, aujourd'hui, je prends une décision. C'est celle de régner avec toi. C'est celle d'être dans le creux de ta main. C'est celle d'affronter la situation avec courage, avec honneur, pour rendre gloire à notre Seigneur. Non, Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dieu ne se repent pas. Dieu n'est pas mis en défaut par la situation que nous vivons. Dieu est sur son trône. Il est digne de louange, d'adoration. Nous l'avons cessé de chanter sa grandeur, de nous émerveiller devant qui il est. Et nous continuons de le faire en cet instant, de l'adorer, de le bénir. Seigneur, gloire, 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 gloire à ton nom. Au sein de la tempête, au sein du naufrage peut-être, au sein de la difficulté, au sein de ce temps où je suis confronté à un obstacle. Merci de ce que tu nettoies dans mon cœur. Et là maintenant, nous sommes dans sa présence, debout, pour certains. Nous reconnaissons la façon de penser, la tournure de pensée, les arrière-pensées qui sont peut-être un obstacle. Et nous amenons cela à la lumière. Nous demandons pardon au Seigneur. Pardon pour le sentiment de victime. Pardon pour le sentiment de ne pas être entendu. Pardon pour le sentiment de passer inaperçu. Pardon pour le sentiment de n'être pas digne. Le sentiment d'être toujours battu par les flots. Pardon pour cela. Le sentiment d'apitoiement. Pardon. Pardon pour avoir pensé que finalement, ma relation avec toi m'a dispensé de difficultés, d'épreuves. Pardon pour cela. Et Seigneur, dans tout ce que nous te présentons comme attitudes intérieures, qui sont parfois des forteresses, que le Seigneur est en train d'ébranler, de détruire, parce qu'il vient mettre sa lumière, sa vérité. Seigneur, merci pour ton sang précieux qui nous purifie. Merci pour la main de l'adversaire qui est maintenant brisée, le pouvoir qui est brisé, sa main qui est obligée de lâcher prise de nos cœurs, de nos pensées, de nos émotions. Partout il amène le trou, partout il amplifie la tempête dans laquelle nous sommes. Merci parce que, Seigneur, tu nous libères de toute emprise, de tout mensonge, de toute manipulation, de tout aveuglement de l'adversaire. Au nom de Jésus, la puissance du sang de l'agneau, il est mort. Il a donné sa vie, son sang a coulé pour que nous soyons purifiés et libérés de ce qui nous tenait captifs, de ce qui appauvrissait notre vie, de ce qui la maintenait dans l'étroitesse, dans la prison. Seigneur, merci parce que nous sortons de la prison aujourd'hui, en cet instant, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton esprit maintenant. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire, gloire, gloire. Tu es Dieu. Nous t'adorons. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tout le monde verra combien tu es grand. Combien tu es grand. Combien tu es puissant. Et Seigneur, tu nous émerveilles par ta grâce, par ta proximité. Moi, ce qui me touche là, pendant que nous prions, c'est qu'il n'y a aucune tempête qui éloigne Dieu de nos vies. Même celles dans lesquelles nous nous fourrons nous-mêmes. Il reste proche, 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 proche. Viens, Seigneur, faire sentir ta proximité. Oh, Seigneur, viens, 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 encore, 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 encore. Persuade-nous de ta proximité, Seigneur. Que ta tendresse, ton affection se répande dans nos vies, Seigneur, et chasse toute peur, toute crainte, toute insécurité. Alléluia. Koroko baratin ko baba sheto lombro kesa. Alléluia, alléluia, victoire, 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 victoire en ton nom. Nous sommes cachés avec Christ en toi, Seigneur, alléluia. Amen, nous nous cachons, nous ne sommes pas dans la super, nous ne sommes pas dans le triomphe, nous sommes blottis dans ses bras, mais là, nous sommes debout dans la foi, face au géant, face au menteur, face à l'accusateur, nous triomphons. Parce que nous croyons que Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est sur son trône. Son trône est établi pour les siècles, les siècles. Il règne. Alléluia. Même si nous ne le voyons pas toujours, mais nous le contemplons, entouré de gloire et d'honneur. Et nous l'adorons. Adorez Dieu dans le sein de votre tempête. Adorez Dieu maintenant que vous en sortez peut-être. Mais même si elle est toujours là, bien intérieurement, vous êtes sorti de la tempête. Elle n'est plus votre univers. Elle n'est plus votre horizon. L'horizon, c'est la présence de Dieu. C'est le règne de Dieu à travers votre vie. C'est le salut de ceux qui vous entourent. C'est la transformation des situations dans lesquelles le diable voulait vous enfoncer. Alléluia. Nous marchons sur toutes les œuvres de l'adversaire. Nous marchons sur la puissance de l'ennemi. Nous marchons avec foi, avec humilité, mais nous marchons en vainqueur. Le Dieu de paix écrase Satan sous nos pieds. Alléluia. Pas parce que nous le valons, pas parce que nous le méritons, mais parce que Christ l'a mérité pour nous. Parce que Christ l'a accompli pour nous. Et parce que nous pouvons aujourd'hui ainsi être en sécurité dans sa victoire. Il nous entraîne dans sa victoire. Amen. Gloire à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est-à-dire qui nous amène toujours dans son char triomphant, dans son cortège triomphal. Amen, amen, amen. Et c'est pas du factice, c'est pas du surfait, c'est pas du, on fait pas semblant, et puis, après-midi ou demain, alors on retombe dans la tempête. Non, ça va durer, parce que Dieu change nos attitudes, change nos raisonnements, change nos positionnements intérieurs, il nous établit sur le rocher. Amen. Et on ne quittera pas ce rocher, n'est-ce pas? Je ne quitterai pas le rocher sur lequel Dieu m'a établi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je ne quitterai pas le rocher sur lequel Dieu m'a établi. Ce rocher qu'on ne peut pas atteindre par soi-même, il nous retire, il nous saisit par la main, il nous retire d'en haut et il nous met sur le rocher. Et je ne quitterai pas ce rocher, assis en Christ, dans les lieux célestes. Alléluia! Bénissons Dieu. On peut tous se lever maintenant dans sa présence, élever son nom, l'adorer, l'acclamer. Il est roi, il est Seigneur. Alléluia! Gloire, honneur et puissance. Tu es Dieu! Ça fait la différence de te connaître. Ça fait la différence de croire en toi. Ça fait la différence de vivre dans la révélation de ton royaume, Seigneur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que tout ce que tu as fait, que tout ce que tu as communiqué, que tout ce que tu as ouvert comme perspective, que tout ce que tu as commencé comme œuvre, Seigneur, soit protégé par toi et que tu le mènes à son achèvement par la puissance de ton nom et par l'action de ton esprit au nom de Jésus. Amen.